Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI. Et ce soir, plutôt que de nous intéresser à la crise politique, dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre, puis d'un gouvernement, il va être question de politique et de religion, cela à l'occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Pour cela, deux invités. François Mabille, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire le géopolitique du religieux à l'IRIS, et vous signez un livre intitulé « Le Vatican, la papauté face à un monde en crise », un livre qui va sortir dans quelques jours aux éditions Erol. Bonsoir Jean-Philippe Monnet.
Bonsoir.
Les auditeurs de RFI vous connaissent bien dans Dimanche Politique. Vous êtes le directeur de la revue Civique, auteur de « Un journal sous influence » aux éditions des Ailes Rebelles. Ce sont les cloches de Notre-Dame qui se font entendre pour la réouverture de la cathédrale. C'était hier soir et c'est à cette même heure d'ailleurs hein, sur RFI et encore ce matin avec la première messe. Et dans les deux cas, c'était en présence du président de la République, de ministres, d'hommes politiques de tous bords. Et c'est l'occasion pour nous de s'interroger sur le rapport qu'il y a entre le monde de la religion et la classe politique. Alors avec Notre-Dame, tout d'abord, on parle de religion, mais est-ce qu'il ne serait pas plus adapté de parler de culturel. Jean-Philippe Monnet.
Oui, je pense que le mot est bien choisi. La culture comprenant aussi les aspirations religieuses, mais évidemment pas seulement. Et c'est vrai qu'on voit bien que Notre-Dame de Paris correspond à un historique culturel français très particulier, au-delà du fait que juridiquement, la cathédrale est la propriété de l'État, qui a d'ailleurs des conséquences directes après l'incendie, qui a permis à l'État d'organiser un établissement public pour rénover cette cathédrale.
Mais l'État qui n'a pas mis d'argent, hein, ce sont des dons privés pour l'essentiel. C'est l'État qui a géré, mais l'argent est privé.
Mais il y a une capacité juridique d'intervenir quand même pour la cathédrale de Paris, comme d'autres cathédrales d'ailleurs en France. Mais le plus important, c'est que finalement cet incendie a produit un tel émoi, non seulement national mais mondial, qu'il a quelque part échappé à l'Église catholique par l'émotion que ça a suscité. On a vu hier à la cérémonie officielle organisée, par exemple, le frère du roi du Maroc, qui évidemment, à titre religieux, n'a rien à voir avec la religion catholique, mais était présent. Il y avait le président Zelensky, qui a une origine juive, qui se dit d'ailleurs non pratiquant lui-même et qui a baptisé ses enfants dans la religion orthodoxe, qui est quand même assez éloignée du catholicisme. Et donc, on voit bien que ces présences politiques, s'il en est, ou géopolitiques, ont dépassé la dimension religieuse largement.
Notre-Dame est un lieu de prière, mais aussi un lieu de visite pour, pas seulement des chefs d'État, mais des millions de touristes qui n'y prient pas, mais qui admirent le travail des bâtisseurs de cathédrales, François Mabille.
Oui, tout à fait. Ça fait partie, je dirais, de l'ambivalence du monument. Notre-Dame a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité en 1991. Et je dirais que d'une certaine manière, les cérémonies d'hier ont donné chair à cette notion de patrimoine mondial. On pourrait penser que c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. La visite de tant de chefs d'État et, lorsqu'il y a eu l'incendie il y a 5 ans, l'émotion que cela a suscité bien au-delà de nos frontières montre effectivement que la notion de patrimoine mondial fait sens, et fait sens notamment lorsqu'il s'agit de bâtiments catholiques comme c'est le cas de Notre-Dame. Notre-Dame est en fait un double symbole. C'est à la fois le symbole du catholicisme, je dirais du catholicisme français, mais pas uniquement. Et c'est également le symbole de la France.
Longtemps, la religion, avant tout catholique en France, a été un marqueur important. Un maire, un député, un ministre se devait d'aller à l'église. Est-ce qu'il y avait une sorte de démocratie religieuse? Est-ce qu'on peut dire cela, Jean-Philippe Poinet?
Alors, dans l'Ancien Régime, non, c'était pas une démocratie, c'était une monarchie qui était imprégnée du droit divin. C'était l'expression monarchie de droit divin où l'Église catholique dominait le pouvoir monarchique et les pouvoirs en général jusqu'à la Révolution française de 1789, où par étapes, il y a eu quelques détachements qui ont été marqués, surtout au début de la Troisième République, avec cette fameuse loi de 1905 qui a lancer ce grand principe auquel les Français sont très attachés, de séparation de l'Église, des Églises au pluriel, et de l'État, sachant que pour les lieux de culte, rien n'interdit, notamment un président de la République, il y en a eu plusieurs qui ont été à Notre-Dame de Paris pour des occasions diverses, le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, on pourra évoquer aussi le fait que Georges Pompidou a organisé un hommage après la mort du général de Gaulle en 1970, que Jacques Chirac a organisé en 1996 un cérémonial d'hommage après la mort de François Mitterrand, à Notre-Dame de Paris. Donc cette séparation très chère aux Français de l'Église et de l'État n'empêche pas la présence d'un président de la République en ce lieu, et non seulement la présence, mais l'organisation de cérémonies qui n'ont pas à voir directement avec le geste cultuel et religieux lui-même que le président de la République, quel qu'il soit, s'abstient de gestes cultuels, au sens, par exemple, précisément de la communion, que pour ceux qui sont catholiques, ne communient pas publiquement dans une église ou dans la cathédrale.
François Mabille, je parlais de démocratie religieuse, vous diriez cela ou vous diriez démocratie chrétienne?
Alors, la démocratie chrétienne renvoie plus particulièrement un parti politique présent en France et présent en Europe, en Amérique latine, etc. Donc, moi, je crois qu'il y a en fait trois facteurs qui ont concouru à la situation qu'on connaît actuellement. Le premier a été rappelé par Jean-Philippe il y a un instant. Effectivement, la construction de la Troisième République s'est faite avec une distanciation croissante et conflictuelle avec l'Église catholique qui avait les écoles, qui avait les hôpitaux et qui était en fait un État dans l'État et qui avait une force particulièrement importante. Voilà. Donc là, il y a une première dissociation qui est une dissociation juridique. Il y a un deuxième aspect qui est que la sécularisation a fait également son œuvre. Et là où il y avait une identité religieuse, notamment du personnel politique autrefois, eh bien cette identité religieuse, elle est beaucoup moins importante aujourd'hui qu'elle n'était la guerre. Et puis il y a un troisième élément qui concourt également à le respect d'une laïcité strict, c'est que là où la religion autrefois en France était essentiellement chrétienne, elle s'est diversifiée. Et nous avons des religions présentes en France et donc il y a la nécessité de cette neutralité de l'État français à l'égard des religions.
Alors cette neutralité, on peut dire qu'elle remonte donc à 1905 quand une loi a été adoptée par les parlementaires français, loi de séparation de l'Église et de l'État. Que dit-elle précisément, François Mabille ?
Alors, on pourrait la reprendre. Moi, je vous dirais que, de manière globale, la laïcité, c'est d'abord le respect de la liberté de conscience des individus. Et en cela, notre République est conforme, je dirais, à l'ensemble des démocraties occidentales. La liberté de conscience, c'est la liberté d'avoir ou de ne pas vous avoir de religion, de pouvoir changer de religion. Le deuxième aspect, c'est effectivement la neutralité de l'État, c'est-à-dire que le fait que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. J'ajouterais, alors ça n'est pas la laïcité au sens strict, mais ce qui me semble spécifique, et Jean-Philippe Moinet mentionnait il y a un instant effectivement, certes une caractéristique propre de la France à travers la laïcité. Moi je dirais que c'est surtout la culture française à l'égard des religions qui est sans doute spécifique et qui nous amène à nous distinguer d'un certain nombre de pays. C'est-à-dire que dans notre imaginaire collectif et loin éventuellement des réalités historiques, les religions ça renvoie du conflictuel, ce sont les guerres de religion. Ça renvoie à ce que disait Jean-Philippe Moinet, le fait que les religions, la religion catholique en l'occurrence, a été plutôt opposée à la Révolution française, plutôt opposée à la Troisième République. Et on a, à travers cette représentation-là des religions, effectivement une certaine méfiance et une mise à distance des acteurs religieux.
Ce qu'il faut dire à Jean-Philippe Moinet, c'est que la laïcité, ça n'exclut pas le fait religieux.
Non, en fait, la laïcité, comme ça a été mentionné par François Mabille, est un principe de liberté, liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, et de cohabiter dans le respect de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. C'est quand même très précieux dans des pays où on voit la théocratie dominer et empêcher soit d'autres religions, ce qui est le cas dans des théocraties, notamment au Moyen-Orient, mais aussi d'empêcher la non-croyance et de voir les pourchasser, ce qui se passe aussi dans le reste du monde. La France a ce précieux principe de liberté de conscience qui nécessite à la fois la séparation et la neutralité de l'État. On l'a vu, par exemple, de manière très précise et complétée par des lois récentes dans l'éducation nationale, avec les lois qui interdise les signes ostensiblement religieux à l'école publique. Donc ces principes sont très importants, ils sont quand même singuliers par rapport à des pays voisins, y compris démocratiques. On sait que, par exemple, en Allemagne, le culte religieux, enfin le culte, peut être subventionné, c'est-à-dire que le clergé peut être subventionné
salarié,
par l'État, ce qui n'est pas le cas en France depuis 1905. Et puis, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même culture où il y a un mélange constant entre la référence religieuse et la référence politique. Dans les discours politiques français, c'est très rare de voir aujourd'hui une référence directement religieuse. On peut faire référence, ce qu'a fait le président de la République, à la transcendance, ce qui a été fait dans le discours du président de la République hier, à Notre-Dame de Paris. Mais la référence religieuse est beaucoup plus américaine que française, par exemple.
Je reviens à cette notion de laïcité. On a l'impression qu'elle est devenue un principe absolu. Elle est très souvent invoquée, souvent jalousement, hein, même. Pour beaucoup, je dirais que c'est une ligne rouge, pour reprendre une expression politique du moment, François Mabille.
Oui, dans notre culture française, effectivement, on a rencontré un certain nombre de problèmes avec ce respect de la neutralité de l'État, ou en tout cas de l'espace, également de l'espace public. Voilà. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement à ce que l'on croit, la religion ne peut pas être une affaire, ne peut pas être qu'une affaire privée. Elle a une dimension sociale, elle a une dimension sociale très, très large. On parle souvent d'intégralisme pour parler, non pas d'intégrisme, mais d'intégralisme pour les religions, en disant que certaines d'entre elles tirent de leur texte fondateur un ensemble d'enseignements qui est valable pour la vie en société. Et bien évidemment, lorsque vous dites ça, vous voyez qu'immédiatement, il peut y avoir des contradictions, des interactions, des luttes avec ce que l'État promeut en termes de loi. À ce niveau-là, effectivement, il y a la nécessité de recadrer la place des uns et des autres.
Est-ce que vous diriez l'un et l'autre qu'aujourd'hui, le religieux est plutôt mal vu?
Alors, chacun de se positionner sur ce sujet.
Non, mais dans l'espace public. Tout à l'heure, je disais laïcité brandie en permanence jalousement par tel ou tel.
Mal vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme François Mabille l'a mentionné, il y a eu un phénomène qui est multidécennal, la sécularisation de la société. C'est-à-dire que la présence, en résumé, de la figure ecclésiale, notamment du curé en France, a perdu de sa réalité, à la fois, j'allais dire, numérique et démographique, et de sa représentation dans la société. D'ailleurs, celle de l'instituteur, on peut se demander aussi. L'instituteur n'a plus l'aura des hussards de la République de la Troisième. Donc, on voit bien qu'il y a des évolutions. C'est vrai que ce qu'il faut rappeler par rapport à cet événement Notre-Dame, c'est que cette figure emblématique de Notre-Dame de Paris, son sens historique, parce que c'est là aussi que Napoléon a été sacré empereur en 1804, dans Notre-Dame de Paris. Alors, c'était carrément religieux, une messe de 5 heures. Par exemple, le général de Gaulle, au moment de la libération, en août 1944, a voulu, alors que ça tiraillait dans les coins autour de Notre-Dame de Paris, rentrer dans la cathédrale pour assister sur son fauteuil, qui n'était pas présidentiel, mais sur un fauteuil spécial à Notre-Dame, au Tédéum. Et donc, il y a des histoires qui ont été incarnées et emblématisées dans et avec Notre-Dame de Paris. Et c'est ça qui a dominé encore aujourd'hui.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplin.
Le rapport entre le monde de la religion et la classe politique avec François Mabille, directeur de l'Observatoire de géopolitique du religieux à l'IRIS, et Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique. Alors, certains politiques sont en référence aux religieux, font référence, mais sans que ce soit ostentatoire. Je pense à des lois sur la fin de vie ou la loi sur l'avortement qui renvoie au commandement de la Bible, par exemple. Tu ne tueras point, François Mabille.
Oui, tout à fait. On peut très bien avoir effectivement la présence d'une éthique fondée sur des principes religieux qui soient pris en compte, soit dans le cadre tout simplement de discussions. On a un certain nombre de commissions consultatives dans le passé qui intégraient des acteurs religieux, des représentants des différentes religions, précisément parce qu'on reconnaît que les religions sont porteuses d'un certain humanisme, alors des humanismes différents, mais donc on les prend en compte, effectivement. Donc il y a cet aspect-là qui entre en ligne de compte, même si on n'aime pas trop parler de cette influence-là qui se joue, il faut quand même le dire, à la marge. On voit bien que sur l'ensemble des grandes lois qui concernent, je dirais, la bioéthique, la fin de vie, etc., généralement, on entend plutôt les autorités religieuses condamner les lois plutôt que dire qu'elles correspondent à leurs desiderata.
Jean-Philippe Monnet.
Oui, et c'est vrai que c'est à la fois marginal, mais ça imprègne aussi différents groupes de sensibilité politique, de gauche comme de droite, et du centre particulièrement. Et c'est vrai que on se souvient, par exemple, qu'une grande figure de la gauche social-démocrate européenne, qui était Jacques Delors, ne cachait pas que, alors c'était dans sa vie privée, il avait une appétence, une croyance religieuse catholique, en l'occurrence, qui pouvait participer de certains de ses choix dans certains domaines assez précis, à droite et au centre. C'est vrai que cette conjonction avec la croyance n'est pas contradictoire en tout point avec une activité politique.
Et sur ces questions, François s'exprime régulièrement. C'est tout autant comme pape que comme chef d'État, hein, chef du Vatican. Il fait de la politique alors, François Mabille.
Alors il s'exprime effectivement comme chef religieux. Voilà. Maintenant, alors ce pape-là notamment, c'est vrai d'autres, mais ce pape a effectivement des discours qui ont très, très souvent des implications politiques. Et parfois, on peut même dire que ces discours ou ces prises de parole sont des prises de parole de facto politiques. Juste deux exemples. Lorsqu'en 2016, en pleine campagne électorale américaine, il dit à propos de Trump qu'il voulait construire des murs aux frontières des États-Unis. Un homme qui veut construire des murs, cet homme-là ne peut pas être chrétien. Vous voyez qu'immédiatement, il y a une implication qui est politique. De la même façon, lorsqu'il y a quelques mois, concernant l'Ukraine, le pape appelle à ce que l'Ukraine hisse le drapeau blanc de la paix, c'est-à-dire demande une reddition, il s'ingère directement dans les affaires d'un État et sur une question qui est vraiment une question régalienne et donc par essence politique, hein, si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, dire à un État « vous devez faire la paix », c'est bien quelque chose de politique, même si on comprend par derrière qu'il y a un humanisme chrétien qui légitime cette prise de position.
Revenons en France avec le religieux, dans les lieux de culte bien évidemment, mais qui est intégré également pleinement dans la vie publique. Je pense par exemple au Secours catholique, qui travaille au quotidien pour venir en aide aux plus démunis, et personne n'y trouve à redire, Jean-Philippe Monnet.
Oui, alors ça appartient à la liberté qu'on évoquait tout à l'heure. La société civile, comme on dit, est libre d'être religieux, de ne pas être religieux, de sortir un étendard catholique pour une association humanitaire ou caritative n'est évidemment pas proscrit par les textes en aucune manière. La question de la séparation de l'Église concerne l'État et donc la puissance publique, son domaine administratif et étatique. La société civile française, comme dans toute démocratie, a ses libertés au pluriel, dont la liberté religieuse d'invoquer la religion de manière manifeste et en l'occurrence associative, puisque vous faites référence au Secours catholique.
Un mot, un dernier. Le président de la République a prononcé un discours hier sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame à cause du vent et de la pluie, mais initialement c'était sur le parvis qu'il devait le faire parce qu'il y avait eu polémique.
Oui, c'est là qu'on voit que l'Église catholique est généreuse. Elle a accueilli le président qui était prévu effectivement dans son discours à l'extérieur de la cathédrale. Dans la cathédrale, il y a dû y avoir une discussion un peu précipitée du fait du changement climatique, si je veux bien m'exprimer ainsi, qui a fait que les pluies se sont déversées. Et donc, il a été autorisé par le clergé, en l'occurrence, de faire ce discours, ce qui est assez rare, hein, un discours au sein même d'une cathédrale, d'une église. Ça peut arriver au moment d'obsèques que j'ai pu évoquer ou d'hommages. Là, on a vu la subtilité, c'était que son pupitre d'expression de son discours était détaché et pas le même que celui de l'archevêque de Paris qui s'est exprimé près de l'autel sur son propre pupitre de clergé.
Et c'est un discours qui n'avait rien de politique, encore qu'on pourra toujours relire entre les lignes, et qui concernait essentiellement la réouverture de la cathédrale. Merci à vous deux pour cet éclairage. C'était
Merci
Dimanche
à vous,
Politique,
Philippe.
À retrouver sur le site internet et sur l'appli Radio France Internationale.